Mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, merci d'être là ce matin pour partager ensemble ce culte. Donc, qu'est-ce que je dirais? Je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de confiance en lui, mais je saisis l'opportunité qui m'est donnée ce matin d'être devant vous pour parler du Seigneur, pour apporter la parole ce matin. Donc, j'ai choisi comme texte ce matin pour vous parler un texte de l'Évangile de Luc, une portion du chapitre 7 de l'Évangile de Luc. Alors, si vous voulez chercher ce passage, c'est en Luc, chapitre 7. Luc, chapitre 7. Et le passage choisi ce matin, c'est les versets 36 à 50. Tant que les pages sont finies de tourner. Voilà, donc je vais lire ce passage. Luc chapitre 7, verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds, mais elle l'a mouillée avec ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé de l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. » C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Voilà. Donc, on pourrait résumer ce texte, ce paragraphe, simplement en une pécheresse pardonnée. Mais en y regardant plus en détail, plusieurs choses méritent notre attention pour l'édification commune ce matin. Si nous sommes attentifs ensemble, nos préjugés, nos raisonnements, nos attitudes pourraient changer, pour ne pas dire tout simplement notre cœur. Donc, j'ai titré pour faire court, j'ai tellement tourné pour trouver un titre à ce paragraphe, finalement j'ai fait court, j'ai titré « Qui est cet homme ?» Voilà. Donc, vous le remarquez comme moi dans ce texte, la scène se déroule dans un repas. Jésus est invité chez un pharisien nommé Simon. On voit son nom au verset 40. Et il va se passer, et rien va se passer comme prévu, on peut dire. Plusieurs personnes, plusieurs réactions composent ce récit. Nous allons donc les passer en revue pour en retirer le meilleur ce matin. Ainsi, dans ce texte, Jésus, qui avait la réputation de manger ou on peut dire, comment dirais-je, d'être à table, parce qu'on voit cela dans le verset 34 du même chapitre. Il disait de Jésus que c'est un mangeur, c'est un buveur. Donc Jésus est convié, c'est ce pharisien, et je dirais certainement pour le piéger et l'accuser, comme cela était devenu courant chez les scribes et chez les pharisiens. J'en veux pour preuve le verset 7 du chapitre 6. Et à première vue, donc ce pharisien avait invité Jésus, mais on peut dire qu'il n'était pas sympathisant de Jésus, puisqu'il n'a pas témoigné son amour lorsque Jésus est entré dans sa maison. On peut dire qu'il lui avait réservé un accueil plutôt froid, en omettant de pratiquer les plus élémentaires règles de l'hospitalité, comme le lavage des pieds. Il ne l'a pas donné de baiser et de bienvenue, et ni versé de l'huile sur sa tête pour le parfumer, ce qui était à la base des bonnes relations de l'époque, une marque d'amour tout simplement. Mais les pharisiens n'aimaient pas Jésus, ou du moins ils n'aimaient Jésus que du bout des lèvres. Enfin, Jésus est tout de même à table et il n'a pas décliné l'invitation. Et les choses vont vite prendre une tournure inattendue. Une femme s'invite dans ce repas, et pas n'importe laquelle, une pécheresse, une prostituée. On ne sait pas grand-chose d'elle, sinon que sa réputation la précède, puisqu'il est dit, c'est une pécheresse. Et elle cherche Jésus avec un vase de parfum. Imaginez le maître de maison. Mais d'où elle sort, celle-là? Elle est sans gêne. Et en plus, voilà qu'elle mouille les pieds de Jésus et les suit avec ses cheveux. Étrange comportement, me direz-vous. Mais ce n'est pas tout. Elle lui baise les pieds, lui verse du parfum. Et le pharisien qui voulait, par ce repas, se montrer au public, on peut dire, il y en a du spectacle. Son regard va changer radicalement, car les pharisiens n'éprouvaient que du mépris pour les pécheurs. Il faut dire que les pharisiens à cette époque avaient une telle prétention qu'ils pensaient qu'ils risquaient de se contaminer au contact des pécheurs. On peut dire aujourd'hui même pire que le coronavirus, puisque pour eux les pécheurs c'était à distance. Alors voyant que cette femme pécheresse s'approche pour toucher Jésus, il ne comprend rien à cette scène, encore moins à sa profonde signification. À sa profonde signification morale surtout, parce que pour lui c'est un vrai dilemme. Il doute de Jésus à ce moment-là et son raisonnement est tout de suite de juger Jésus. Au verset 39, on le voit, il dit « Si cet homme était prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche. » Première note importante ce matin que je voudrais que vous notiez, je perds mon latin, enfin vous avez compris, c'est le jugement précipité. Alors je dirais donc, faisons attention à notre jugement. On peut dire qu'en blâmant implicitement Jésus de la sorte, ce pharisien est aveuglé par le sentiment de sa propre justice et n'a aucune idée des douleurs de la repentance, sinon sa conclusion aurait été tout autre. Parfois, on est tellement religieux qu'on porte des jugements hâtifs. Vous avez remarqué, il ne juge même pas la femme, mais Jésus. Il n'est pas prophète. Puisque cet homme ignore qui est cette femme. Mais le motif qui nous fait agir n'échappe pas à celui qui sonde les cœurs et les pensées. Une démarche apparemment inutile pour nous, à sa valeur pour Jésus qui apprécie non pas le résultat visible, mais les motifs intérieurs. L'Éternel ne regarde pas à ce à quoi l'homme regarde, car l'homme regarde à l'apparence extérieure et l'Éternel regarde au cœur, nous dit 1 Samuel chapitre 16 verset 7. C'est ce qui se passe quand on devient de plus en plus religieux. Parfois on est tellement religieux que même ce que fait Dieu nous paraît douteux et on se permet de l'évaluer, de le juger. L'ami des pécheurs, disaient les pharisiens. Il est l'ami des pécheurs. Nous aussi, nous méprisons parfois dans nos pensées. Par exemple, vous avez déjà remarqué à tel point que lorsqu'une personne agit différemment de ce que nous pensons être une bonne attitude, dès qu'une personne n'aime pas ce qu'on aime, eh bien, bim, hein, celui-là, on le prend en aversion. Dès qu'une personne n'apprécie pas autant que moi telle ou telle chose, c'est on veut le descendre, quoi, entre guillemets. Avant que les choses se traduisent par des paroles, nous avons une vive répulsion. Dès que l'autre n'est pas comme nous, nous oublions que nous sommes appelés à aimer dans la diversité. Et là, on peut dire que c'est un gros problème, car il est possible d'être une usine à mépris sans que cela se voie jamais, en fait. Il faut donc se garder de toute malveillance, de toute médisance. Ça, c'est une chose. Ce que je veux dire, par exemple, c'est que vous pouvez, en ce moment, être en train de me mépriser, et moi, je ne le sais pas. Mais le problème, c'est que moi aussi, je peux être en train de vous mépriser en pensant, en vous regardant, que vous ne m'écoutez pas en ce moment, et cela sans que vous le sachiez non plus. Par contre, et c'est là la deuxième chose importante ce matin à retenir, c'est que Jésus, lui, il voit tout, il entend tout. Vous n'avez pas oublié, j'espère, la première chose importante, c'était se garder, faire attention de tout jugement précipité. Donc je disais donc, le deuxième, c'est Jésus, il voit tout. Et c'est ce que Simon, dans ce texte, le pharisien, il va apprendre de son raisonnement intérieur. Car il a dit des choses que personne n'a entendues, mais Jésus si. Il avait déjà tiré sa conclusion sur Jésus. Si cet homme était un prophète, il saurait qui et quelle est cette femme qui le touche. Mais Jésus n'ignorait pas qui était cette femme et il savait que c'était une pécheresse. De plus, il connaissait les pensées de Simon. C'est pourquoi, prenant la parole, il répond à la pensée non exprimée de Simon au verset 40 et il lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, répondit-il. » Et Jésus, là, va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire tellement de choses en si peu de mots à travers une histoire et à travers une parabole dans les versets 41 et 43. Avouons que ce n'est pas facile si vous, parce que mettez-vous à la place, si vous sentez qu'il y a un problème avec quelqu'un, avec une personne, quelquefois, on est super complexé, on ne veut pas culpabiliser, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas par quoi commencer, et puis on se dit, aïe, si je dis trop, aïe, ça va pas aller. Donc, on n'arrive pas à s'exprimer, je n'arrive pas à m'exprimer, et je crains que la personne ne comprenne ce que je veux dire, là où je veux en venir, etc. Et puis finalement, on se dit, bon, ben, je lui dirai rien, je laisse tomber. Mais Jésus, il a ce don des petites histoires. Jésus, lui, il a ce don des petites histoires. Et c'est ce qu'on va voir dans les versets 41 à 43. Et il va lui parler en parabole. Et il y a une histoire semblable, on a un petit peu fait allusion ce matin dans l'Ancien Testament, une histoire qui a été utilisée dans une situation aussi compliquée. C'est l'histoire de Nathan et David dans 2 Samuel, chapitre 12 et versets 1 à 15. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de cette situation où David, il avait pris la femme d'Uri et il avait envoyé en guerre, etc. Et puis Nathan qui vient, qui lui raconte en parabole, il lui dit qu'il y avait un riche, il y avait plein de bœufs, plein de brebis, et puis il voulait faire un festin, il a un pauvre qui avait une toute petite brebis, et il a pris cette brebis, et puis il a festoyé avec. Et David, il est tombé dans le panneau, bim, il dit, « Ah, cet homme mérite la mort, et il rendra 4 brebis. » Tout de suite l'histoire. Donc, mais et imaginez-vous, Nathan, il dit, ah, c'est pas moi, c'est toi qui le dis. Il était tout de suite. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que ce qu'il y a, ce qu'il y a de fantastique dans les paraboles, c'est que vous entrez dedans sans vous rendre compte, et au moment de la conclusion, vous vous accusez vous-même. Voilà. Et c'est pour ça que Nathan, il s'est dit, ouf, c'est pas moi qui le dis, c'est toi qui dis, qui rendra quatre brebis, etc. Donc, revenons à l'histoire de Jésus dans les versets 41 à 43. Donc, nous allons voir deux phrases, une question. Et Jésus va retourner toute la situation. Je pense que, et vous serez d'accord avec moi, que l'ambiance du repas changea à ce moment-là. Observez bien la réponse de ce pharisien dans les versets 43. Nous allons regarder ce verset, mais avant de lire ce verset, je dirais un truc. Imaginez cette histoire. Vous le racontez, entre parenthèses, vous racontez cette histoire à un enfant, il vous dira, en lui demandant qui va être le plus reconnaissant, il vous dira tout de suite que c'est celui à qui on a le plus remis, celui à qui on a remis la plus grosse dette. Tout le monde connaît la réponse. Pourtant, regardez la réponse en détail. Un détail va nous attirer dans cette réponse. Il va dire, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Alors que tout le monde peut répondre à cette question, lui, il dit, celui, je pense, je suppose, on sent dans la lecture, celui, je suppose, auquel il a remis la plus grosse somme. Ce qui veut dire qu'il n'a pas l'air, dans le texte, on sent qu'il n'a pas l'air très sûr. C'est à se demander qu'est-ce qu'il est en train de faire à ce moment-là, où il veut en venir en répondant de la sorte. Et je vais vous dire ce qu'il est en train de faire. Il est en train de gagner du temps. Il essaie de gagner du temps car sa réponse le condamnait. Et il commence à comprendre parfaitement où Jésus veut en venir avec lui dans cette histoire. Et cela pose un problème puisque c'est de lui qu'il s'agit, c'est de lui que Jésus est en train de parler, car Jésus est bien plus qu'un prophète. Jésus est beaucoup plus qu'un prophète, il est le plus extraordinaire des enseignants et il sonde les cœurs et les pensées mieux que personne. Et c'est alors qu'à ce moment-là, il se tourne vers cette femme, dans les versets 44 à 46, mais il parle toujours à Simon et il lui dit, « Vois-tu cette femme ?» En fait, Simon, qui dans la situation n'a vu que du négatif, Jésus va donc lui faire comprendre juste en faisant un parallèle. Il ne le fait pas pour le rabaisser ou pour être méprisant envers Simon pour ses principes d'hospitalité, parce que Simon, il savait très bien que si vous invitez quelqu'un, il y a des principes comme le lavage des mains, le lavage des pieds, embrasser, donner le baiser, verser de l'huile, etc. Il n'avait fait aucune de ses actions, mais en réalité, il le savait très bien. Mais le regard de Jésus est absent du jugement, de dureté, de sévérité. C'est un regard rempli d'amour. Le regard de Jésus va l'inviter tout simplement à abandonner ses mauvaises pensées, c'est-à-dire son jugement précoce, ses préjugés, et à aller au-delà de ses observations. C'est un appel au changement d'attitude que Jésus va enseigner, une leçon d'amour. Et il va lui dire, « Vois-tu cette femme ? Elle a beaucoup aimé. » Jésus, lui, il a compris ce que cette femme a fait. Ce qui est génial avec Jésus, c'est qu'il sonde le cœur de Simon quand il est en train de penser mal de lui, quand il est en train de mal agir. Mais il a pu aussi, sans que cette femme ne dise un seul mot, lire exactement ce qui était dans son cœur, ce qu'elle était en train d'exprimer. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, pour vous et moi ce matin, parce qu'il nous est tous arrivé de vouloir nous exprimer quelque chose dans nos prières et de ne pas trouver les mots ou la formule pour formuler quelque chose de sincère. Mais les mots sonnent souvent trop plats par rapport à ce qu'on veut vraiment décrire. Et bien, la bonne nouvelle, c'est que on ne peut jamais être mal compris par le Seigneur. Il lit les cœurs et il nous comprend. Et cela fonctionne dans les deux sens. Je peux avoir aussi des mots élogieux dans ma louange et j'en pense pas un mot. Il lit aussi le cœur. Soyez donc rassurés ce matin, Dieu ne vous comprendra jamais mal. Il sait très bien si vous êtes là ce matin, en ce moment, en train de vous ennuyer à mourir. Si vous êtes là, vous avez tellement, et il sait aussi si vous êtes là et que vous avez tellement envie de venir à lui. Il sait les deux. Il lit nos cœurs. Comme dans ce récit, il voit très bien la démarche de cette femme, ce qu'elle a entendu auparavant. Elle est en train de vouloir lui dire qu'elle veut venir à Dieu. Elle a pris conscience de la vie qu'elle a menée auparavant. Elle n'est pas naïve. Et peu importe le regard des gens de la maison, elle pleure puisqu'elle en a besoin. Donc je vous dirais que le meilleur endroit, si vous avez besoin de pleurer, c'est aux pieds de Jésus. Donc cette femme, elle exprime tout son amour, sa reconnaissance. Elle sait très bien qu'elle n'avait pas sa place aux pieds de Jésus et qu'elle ne mérite pas de le toucher. Mais elle est consciente qu'en la laissant faire, signifie que Jésus accepte qu'elle vienne à lui et qu'il lui a pardonné. Et cela, Jésus va le dire très clairement à Simon, au verset 47. Il va lui dire, ses nombreux péchés ont été pardonnés. C'est pourquoi elle m'a témoigné autant d'amour. Ensuite, Jésus, il va se retourner vers la femme, il va le rassurer en lui confirmant, tes péchés sont pardonnés. La foi de cette grande pécheresse en Jésus l'a conduite à faire confiance en son pardon. Ses actes étaient une preuve de foi, d'où les paroles de Jésus, celui qui a peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Cette phrase ne signifiait pas que le pharisien n'avait pas été un grand pécheur. Elle souligne au contraire le fait que Simon n'avait jamais reconnu son immense culpabilité, car il aurait manifesté envers le Seigneur autant d'amour que cette prostituée. Donc personne ne peut vraiment aimer Dieu avant de reconnaître ses propres péchés et de recevoir le pardon par la foi en Christ. Nous sommes tous de grands pécheurs, nous pouvons tous bénéficier d'un grand pardon et par conséquent témoigner beaucoup d'amour au Seigneur. La question ce matin, c'est quelle est la dernière fois que vous avez ressenti que vous avez vraiment mal agi et que vous êtes venu au Seigneur vraiment le cœur lourd au début et que vous avez reçu son pardon. Il vous a murmuré, il vous a dit par son esprit, je comprends que tu pleures, mais tes péchés sont pardonnés. Vous voyez, c'est ça l'évangile, la bonne nouvelle, extrêmement précieux, et en même temps, il faut peu de choses pour comprendre de travers. Comprenez bien que ce n'est pas le fait que cette femme ait pleuré ou versé du parfum qui lui ait fait mériter le pardon. C'est vraiment parce le fait qu'elle a pris conscience de ses fautes et qu'elle a réalisé que Jésus était juste venu pour des personnes comme elle. Qu'il était vraiment celui qui a dit « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres ». Elle s'est dit, il y a une place pour moi, il y a de l'espoir pour moi. Je saisis donc cette opportunité car j'ai besoin de ça. Et cette opportunité se présente à nous dans toute la parole de Dieu. Cette invitation à confesser nos péchés, à se repentir, à prendre conscience d'une réalité dont on n'était pas conscient pour pouvoir saisir ce pardon qui m'est offert, cette grâce du salut. David, qui avait fait l'expérience du pardon, il a dit ceci, « Heureux celui ou celle à qui l'Éternel ne compte pas le péché. » Avoir une ardoise devant Dieu, reconnaissons que c'est un gros problème, n'est-ce pas? Nous allons arriver tout doucement à la fin, mais je vais terminer avec une dernière pensée sur les trois principales personnes de notre histoire. de ce texte et aussi les autres, car il n'était pas que trois dans ce repas. Il y avait aussi du monde. Donc, premièrement, il y a Simon dans ce repas qui ne voit pas son péché. Et en se comparant à cette femme, il pouvait penser, moi, je suis OK et je ne suis pas comme cette femme. Mais tant qu'on se compare les uns aux autres, vous allez toujours trouver quelqu'un par rapport à qui vous serez saint. Toujours. Mais le jour où je me compare au Seigneur Jésus, celui qui doit être mon modèle de référence, là, c'est tout l'inverse. Donc, c'est donc grave ce fonctionnement de se comparer aux autres. Car plus je l'entretiendrai, moins je ressentirai le besoin de demander pardon. L'absence de prise de conscience fait rentrer dans un cercle vicieux. Faisons attention. C'est tellement plus facile de s'auto-excuser, de s'auto-justifier, de s'auto-féliciter, etc. De se dire, moi, tout va bien en fait. Je ne suis pas comme lui. Moi, ça va. Sauf que lorsqu'on est comme ça, on est comme Simon. Si Jésus savait, cette femme. Voilà. Donc, quand on voit la grâce de Dieu, quand on est comme ça, comme Simon, quand on voit la grâce de Dieu, on n'arrive même pas à s'émerveiller. On n'arrive même pas à réaliser que nous aussi, nous avons besoin de Jésus. Et c'est ça le danger qui fait qu'on passe à côté de ce que cette femme, elle a vécu. Si nous ne comprenons pas que cette histoire, nous n'avons pas rien compris de l'évangile, parce que c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit du début à la fin. De reconnaître mon péché, me sentir coupable, ça peut être un cadeau de Dieu, un point de départ et une étape par laquelle il faut passer. Ensuite, nous avons cette femme, elle nous apprend tellement de choses. Avez-vous remarqué dans quel domaine elle a péché? Elle nous dit que c'était une prostituée, donc c'est le péché de sexe. Cette histoire nous apprend que même ceux qui tombent dans le péché sous cette forme peuvent être restaurés. Personne n'a besoin de ça, bien sûr. Quelqu'un qui a péché dans le domaine sexuel est pardonné. Et Jésus lui dit, après l'avoir pardonné, au verset 50, « Tu es sauvé, va en paix. » Jésus lui dit, va en paix, tu es sauvé, pas parce que ce n'était pas grave, mais parce que Jésus l'a dit, sa dette, ses nombreux péchés sont pardonnés. Jésus fait référence à son amour. Il n'a pas sous-estimé la situation, mais il a vu la repentance de cette femme et il a vu sa foi. Alors, quoi dire? Eh bien, si ça marche pour ce péché-là, qui est devenu malheureusement tellement commun et facile de nos jours, n'ayez pas crainte, quel que soit le vôtre, quel que soit le domaine dans lequel vous tombez, la chose qu'il faut faire, c'est que vous veniez aux pieds de Jésus et que vous pleurez et vous, un peu pour l'entendre vous dire, tes péchés sont pardonnés, j'ai vu, je sais, va en paix, tu es sauvé. Car Jésus a un cœur débordant d'amour pour chacune de ses créatures. Tout cela pour vous dire que ce qui nous prive de la grâce de Dieu, ce n'est pas notre péché, c'est l'absence de repentance. C'est le fait de ne pas prendre conscience. Cette femme a été restaurée parce qu'elle avait compris son besoin de pardon et à cause de sa foi. Ce n'est que par la foi que nous pouvons recevoir le pardon, la guérison, le salut que Dieu donne dans sa grâce et offre aux hommes pécheurs. Ensuite, en dernier lieu, nous avons les autres. Et je termine avec les autres personnes en quelques mots pour être complet. C'est au verset 49. Nous pouvons voir ces autres personnes. Ils disent... Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Donc tous ont vu ce qu'a fait cette femme, mais personne n'a vu le sens de ce qu'elle a fait. Personne n'a vu ce qu'elle était en train d'exprimer. Et on peut constater malheureusement que c'est souvent comme ça en religion. Lorsqu'on est trop religieux, on parle de Dieu, mais il y a la façade et on oublie, on néglige de parler de la réalité qui est derrière. Et c'est exactement le problème, c'était exactement le problème des pharisiens. Et ce peut être aussi le nôtre quand nous tombons trop dans la religion, où nous jugeons les choses précipitamment et passons à côté de la réalité même. Je vous rappelle que ces hommes respectent la loi, les autres là, ils respectent la loi dans le but d'être en règle avec Dieu et d'être pardonnés de leurs péchés. Et là, ils viennent de voir une femme qui avait une dette énorme et qui est pardonnée, qui est sauvée, qui repart en paix. Et dans leur ignorance, ces hommes se scandalisent de ceux qui auraient dû les toucher profondément. Au lieu de se dire, moi aussi j'ai besoin d'être pardonné, puisque tu as pardonné à cette femme, pardonne-moi également. Mais leur préoccupation est, qui donc est cet homme qui ose pardonner le péché ? C'est n'importe quoi, pense-t-il de Jésus. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est trop facile, cette histoire. Elle a fait n'importe quoi et maintenant elle arrive, tes péchés se sont pardonnés. Combien de fois, nous aussi, nous avons entendu cela? Le salut, c'est trop facile. Hélas, le cœur naturel ne comprend pas la grâce. Mais c'est la réalité. Sans le pardon gratuit, aucune personne ne peut échapper à la colère à venir. Il n'y a que Jésus qui puisse pardonner les péchés. Tous les pécheurs sont débiteurs envers le Dieu Tout-Puissant. Jésus est le seul qui a l'autorité de remettre les dettes. Il délivre tout de tout fardeau. Il nous délivre de tout fardeau. Donc, en conclusion, je dirais, si ce message vous trouve ce matin endetté, accablé par le poids de vos péchés, que ce soit sous la même forme que cette femme ou que ce soit dans un autre domaine, sachez que Jésus, le Fils de Dieu, vous aime. Sachez qu'il vous aime bien plus qu'un prophète. Il est bien plus qu'un prophète. Il est celui qui renverse le processus du péché. Il ne porte pas de jugement hâtif. Il est cet homme qui voit, qui sonde les cœurs et qui sonde les pensées. On ne peut jamais être mal compris par lui, car il peut lire ce qui est dans notre cœur. Donc ce matin, si vous êtes fatigué, chargé, venez à lui, il donnera du repos à vos âmes. Le meilleur endroit, je répète, pour vous décharger de vos dettes, pour que vos péchés soient pardonnés, c'est au pied de Jésus, pour que vos péchés soient pardonnés. Il remettra vos dettes, vos péchés seront effacés et vous repartirez comme cette femme en paix, renouvelée dans votre assurance. Donc ce matin, que Dieu nous aide à bien comprendre le sens de ce récit de sa parole, pour venir à Jésus sans hésiter, le seul qui peut nous dire, j'ai vu, je te comprends et tes péchés te sont pardonnés. Amen.
Amen. Amen.